Bonjour. Au cours précédent, donc vous vous en souvenez, nous avons esquissé un mode de lecture du premier chapitre du Genji, le chapitre Kiritsubo, qui met en évidence la structure que nous pourrions qualifier de polyphonique ou pluridimensionnelle de la narration de Murasaki Shikibu. Nous avons vu comment se déploie, en substrat de la surface narrative imprégnée d'influences littéraires chinoises, un réseau plus profond d'allusions. Un réseau plus profond d'allusions qui ne sont en fait pas si encryptées que pourrait le penser un lecteur moderne, qu'il soit japonais ou occidental. Pour les lecteurs contemporains de Murasaki Shikibu, ce réseau devait être bien plus facilement discernable, ce qui explique probablement la persistance des interprétations bouddhiques de son œuvre, dont nous avons vu jusqu'à quelles extrémités elle pouvait aller. Nous avons aussi relevé l'échange de trois poèmes entre le Genji, le préfet monacal, le Sōzu, et l'ermite, poème dont l'ordre ascendant montre sans équivoque que le prince est comparé au Bouddha lui-même. Cet échange est au livre 5, Wakamurasaki, un livre très riche puisqu'il constitue le début de l'un des fils narratifs importants du roman, la décision que prend le prince d'enlever la fillette de 10 ans, dont il fera quelques années plus tard son épouse principale, avant de lui substituer la princesse troisième, Onna Sannomiya. Nous avons relevé au cours du séminaire ce passage étonnant du même chapitre 5 où le Genji, en présence du préfet monacal, est saisi de compunction à la pensée de ses fautes et où, dans le même mouvement, il se met à méditer son péché suivant. C'est ce passage que je cite. Je reviendrai sur ces images. Le préfet monacal lui tint des propos, des monogatari, monogatari au sens de propos, cette fois vous voyez que c'est un mot très vague, très général, et qui désigne aussi simplement des conversations. Et de ce point de vue, il est tout à fait l'équivalent du chinois shuohua que l'on trouve sous la forme setsuwa, n'est-ce pas ? En réalité, setsuwa et monogatari sont très proches par le sens. Donc le préfet monacal lui tint des propos monogatari sur l'inconstance du monde ainsi que sur les existences futures. Horrifié de la mesure de ses fautes, le Genji, sous-entendu, avait laissé de pénibles absurdités Ajikenaki Koto, c'est un mot que l'on voit souvent dans le Genji, envahir son cœur, dont il devrait souffrir sa vie durant. Et combien plus terribles seraient ses futures existences, quelque chose de très bouddhique, l'inquiétude pour les réincarnations. Poursuivant ses pensées, il aurait voulu demeurer à un tel endroit. Alors vous voyez que la fin est tout à fait ironique, n'est-ce pas ? Koyo naru sumai mo semahoshiku oboete. Et puis, exactement dans la même phrase, il aurait voulu demeurer en un tel endroit, ce qui l'amena à songer avec un tendre intérêt, Koishikereba, à l'apparition aperçue dans la journée, c'est-à-dire à la jeune fille. Vous voyez qu'au moment même où il se dit « je voudrais être moine », ses pensées le replongent dans le monde. Ce passage mérite d'être souligné. En trois lignes, Murasaki Shikibu révèle le sens profond de son roman. Elle décrit un personnage partagé, sans en être même conscient, entre son aspiration religieuse, car nous verrons que les scènes où il envisage d'entrer dans la vie monastique se répètent, et son appétit sensuel insatiable, aussi naturel pour lui que la respiration. Son désir ne connaît ni répit ni satisfaction, et nous pourrions nous amuser, si nous étions encore au collège et pas au Collège de France, à écrire une dissertation où nous comparerions le personnage de Don Juan avec celui du Genji. Nous verrons tout à l'heure un intéressant contrepoint à cet état d'esprit pétri de repentance, c'est important, sans recherche véritable d'un mode de vie amendé. Nous avons déjà précisé que l'enquête que nous menons sur le Genji prend comme principaux repères les poèmes qui en marquent les moments les plus forts de la narration. Comme nous pensons l'avoir montré, ces poèmes jouent un rôle important pour souligner l'arrière-plan de pensée, pour ne pas dire idéologique, qui sous-tend l'intention littéraire de l'auteur. Ils sont aussi un indice précieux pour déterminer les relations de Murasaki Shikibu avec les auteurs de son temps ou ses prédécesseurs. Afin de clarifier ces relations, j'apporterai ici deux exemples qui nous ramèneront tous deux vers la même personnalité importante de l'époque. Je vous donne quelques illustrations d'abord. Ici, malheureusement, je n'ai pas trouvé de bonnes photos qui reproduisent l'atmosphère tout à fait singulière de ce temple du Nord, c'est-à-dire du Kuramadera, dont on dit qu'il est le modèle du Kitayama no Tera, n'est-ce pas, Kitayama no Tera, du chapitre Wakamurasaki du Genji Monogatari. C'est un endroit tout à fait extraordinaire qui était Tendai à l'époque, qui était probablement de l'école Tendai à l'époque de Murasaki Shikibu, qui est maintenant devenu depuis la fin de la guerre un mouvement religieux un peu particulier, enfin, c'est-à-dire, il est devenu autonome, n'est-ce pas? Donc je n'ai trouvé que ça, mais alors nous aurons du mal à nous imaginer la scène qui va suivre. Mais c'est un endroit, je vous dis, tout à fait mystérieux, avec des parties. On peut le traverser en général de l'est en ouest, et c'est là qu'on retrouve vraiment des paysages qui font penser à ce que décrivait Murasaki Shikibu. Donc je vais vous donner quelques rappels des procédés littéraires d'accumulation en quelque sorte de Murasaki Shikibu. La première de ces relations part d'une brève réplique du prince au livre 5 de donc le Waka Murasaki, alors qu'il vient de proposer au préfet monacal de parrainer sa nièce, la petite fille de 10 ans, donc la petite Murasaki, et qui est dans le premier pas dans le projet, c'est le premier pas dans le projet qu'il va mener à bien. Le préfet monacal est un peu irrité de la proposition, je pense qu'il connaît son Genji, et il prend congé sans répondre à cette proposition tout à fait singulière, et le Genji, le prince, se retrouve seul dans l'obscurité de la nuit, aéré dans les appartements intérieurs de la résidence du prélat sur la montagne du Nord. Encore une fois, précisons que l'environnement sonore, le paysage sonore, comme on dit maintenant, pour traduire un mot très à la mode en anglais, le soundscape, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait passionnant, très intéressant de reconstituer les paysages sonores du Genji, qui sont toujours marqués. Je pense qu'il y a, je n'ai pas vu, mais il y a certainement des recherches qui sont faites à ce sujet. Et nous voyons de loin en loin que ce qui... Et Murasaki Shikibu note minutieusement ce qui se passe du point de vue de la voix, du chant, des sons. Et sa description des paysages sonores est tout à fait minutieuse. Et la lecture de ce Waka Murasaki de ce point de vue est tout à fait enrichissante. C'est vraiment le sutra du lotus qui rythme ce chapitre, enfin la première partie en tout cas. Donc encore une fois, précisons que l'environnement sonore est celui qui marque la plus grande partie du chapitre est la récitation des écritures, Dokyo, n'est-ce pas, Kyo, Yomu. Et ici, comme ailleurs, c'est le sutra du lotus, car il n'y a pas de raison que cela change. Il y a parfois d'autres sutras, des sutras amidistes qui sont cités, mais la plupart du temps, c'est le sutra du lotus. Et dans ce... Il est un peu... C'est la nuit, n'est-ce pas, un peu perdu dans les appartements, il entend une voix féminine qui... Une dame de compagnie de la petite équipe qui est là autour de Waka Murasaki, et la dame de compagnie se demande s'il n'a pas des bourdonnements d'oreilles. Et lui, à entendre ce curieux rat qui fouine dans les couloirs, et lui répond par cette plaisanterie, vous voyez, « Hotoke no onshirube wa kuraki ni ritemo sarani tagao majikanaru mono » Guidé par le Bouddha, même ayant pénétré dans les ténèbres, on ne sera plus égaré. Comme on le sait bien, comme on le comprend bien, il s'agit ici d'une allusion plaisante, suscitée aussi par l'environnement sonore, encore une fois, puisque c'est le Sutra du Lotus, une allusion plaisante au chapitre 7 du Sutra du Lotus, le Kejo Yuhon, la comparaison, la parabole de la cité fantasmagorique, de la cité magique, dont je vous donne ici la citation d'où est tirée cette paraphrase du Genji. Donc, en leur longue nuit, de plus en plus ils vont vers les mauvaises destinées, de moins en moins vers la multitude des dieux. Ils s'enfoncent de ténèbres en ténèbres sans jamais entendre le nom de l'éveillé. Et dans le même temps, Tous les lecteurs de l'époque et des suivantes qui lisent ces mots ne peuvent que se remémorer deux poèmes de deux poétesses majeures de l'époque. L'une est bien sûr Izumi Shikibu, qui est née vers 975-978 et est morte probablement dans le premier quart du XIe siècle. Donc, encore une fois, une contemporaine exacte de Murasaki Shikibu. Donc, c'est un poème très, très, très connu, ce poème fameux entre tous, n'est-ce pas ? Kuraki yori kuraki michi ni zo ni nubeki, haruka ni terase, yama no hanutsuki. Qui est donc des ténèbres devant entrer dans les ténèbres encore, au loin éclairez-nous, l'une à la crête des monts. Mais le second est tout aussi proche. Alors, vous voyez, c'est un poème qui est la plupart du temps compris comme s'adressant à une personne, le moine Shouoku, dont je vous donne les notes, les dates ici, 910-1007, vous voyez qu'il a une extraordinaire longévité qui n'est pas si exceptionnelle à l'époque. On a souvent dit que les gens mettent en doute ces longévités, mais lorsqu'on voit qu'il y a aussi des moines célèbres, illustres, qui meurent très tôt dans la cinquantaine, il n'y a pas de raison de mettre en doute ça. Donc il était encore vivant à l'époque de Murasaki Shikibu et bien sûr de Izumi Shikibu, puisque c'est à lui qu'il s'adresse ici. Ça s'adresse au moine Shouoku et en même temps au Bouddha, c'est toujours à deux dimensions, n'est-ce pas? Et le second poème auquel fait une référence immédiate cette réplique du prince est tout aussi proche par le temps et même par le milieu, peut-être même plus proche encore. Il s'agit du poème de Senshin Aishinno, encore elle, vous me direz-vous, mais elle est toujours là, vous allez voir, que nous avons souvent rencontré comme contemporaine primordiale de Murasaki Shikibu et dont nous n'avons plus à rappeler le rôle qu'on lui prête depuis longtemps dans la rédaction même du Genji. Il s'agit cette fois d'un pur Shakkyoka, c'est-à-dire un poème à thème bouddhique, qui exprime la même inquiétude que Izumi Shikibu. Ça fait évidemment partie du Hoshin Wakashu, n'est-ce pas, vous vous souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois ici, de ce recueil de poèmes bouddhiques de Senshin Aishinno, dont 28 sont consacrés à chacun des chapitres du Sutra du Lotus, et pour le chapitre 7, la cité fantasmagorique, vous avez celui-ci, donc « Kuraki yori kuraki ni nayaku irinu tomo tazunete tare ni towan to suran » une assonance remarquable à la fin. « De ténèbres, en ténèbres à jamais j'ai pénétré, mais pour m'en enquérir, à qui devrais-je m'adresser ?» M'enquérir du nom du Bouddha ou de la loi de Bouddha. C'est un détail certes minuscule, mais relevons ici la relation entre la première partie, le hokku, n'est-ce pas, le kaminoku du poème, qui est tomo, qui finit sur irinu tomo, donc, et la première partie de la première proposition du Genji, qui est aussi kuraki ni iditemo. N'est-ce pas, vous avez une concessive dans les deux cas. Celle du Genji, la concessive du Genji, est beaucoup plus facilement compréhensible, alors que le tomo de notre vestale, la vestale du Kamo-jinja qui était Senshin Aishinno, fait difficulté. L'objet de Tohu est certainement le nom du Bouddha, c'est-à-dire Amida, et l'allusion est probablement à l'entrée dans l'époque de la fin de la loi. Donc c'est pour ça que nous sommes entrés dans la fin de la loi et je devrais connaître le nom d'Amida. C'est ce que, à mon sens, exprime cette concessive, que les gens sur lesquels les gens ne s'apesantissent pas en général, mais qu'il faut avoir. Mais vous voyez que ça correspond à la phrase du Genji, qui est tout à fait intéressant. Enfin, n'allons pas trop loin cependant dans le rapprochement. Ce que nous pouvons en tout cas retirer de cette coïncidence de trois poétesses, donc Murasaki Shikibu, Izumi Shikibu et Senshin Aishinno, de trois poétesses exactement contemporaines, est encore une fois que Murasaki Shikibu se situe dans un contexte de profonde piété bouddhique. On sait que Izumi Shikibu avait, à tort ou à raison, la réputation d'avoir été de mœurs fort légères, mais d'avoir été aussi tourmentée par le désir d'entrer en religion, comme le prouve d'ailleurs son poème adressé au moine Shoku, dont on dit, alors je ne sais pas si ça rappelle un peu Tchaïkovski et cette baronne russe qui était amoureuse de lui et qui se couchait dans son lit lorsqu'il n'était pas là, n'est-ce pas ? On dit qu'elle mourut revêtue de son habit monastique, de l'habit du Kessa, donc du moine Shoku. Le poème de Senshi Naishinno exprime un désarroi plus profond, mais nous n'avons pas à nous en occuper ici. Donc, il est intéressant de voir que ce triangle poétique se reforme en nombre d'endroits du Genji. Et en voici un exemple encore plus pénétrant. Il s'agit du dernier chapitre, du dernier poème du chapitre 52, l'éphémère, Kagero. Je reprends l'observation de Jacqueline Pigeot qui est que l'éphémère, le petit insecte que nous appelons l'éphémère, est féminin en français. C'est une éphémère et pas un éphémère. Dans cette époque où nous faisons très attention au genre grammatical, il faut aussi donner les vrais genres. Donc, une éphémère. L'éphémère Kagero, qui suit l'époque de la tentative de suicide de la demoiselle Ukifune à la suite de son viol par Niyo Unomiya. Il ouvre les deux derniers, il faut bien appeler un viol, n'est-ce pas ? Il ouvre les deux derniers chapitres, ce chapitre 52, qui décrivent l'entrée en religion de la jeune fille, Ukifune. Une fin qui serait appropriée si le Genji devait finir comme un livre bouddhique édifiant. Mais ce n'est pas ce qu'il est, puisque la religion qui imprègne toute la narration ne résout rien, tant les personnages, dans leur profonde, foncière, inaltérable humanité, ne peuvent rien faire contre leurs attachements. Un terme que l'on va retrouver aussi ici. Mais concentrons-nous plutôt sur ce poème, qui est de Kaoru, donc le soupirant infortuné de la belle demoiselle. Le voici inspiré par les éphémères voltant au crépuscule. Aditomite, teniwa torarezu, mireba mata, yukue moshirazu, kieshi kagero. Il y a quelques. Je donne la meilleure lecture. Je vois qu'elle est là, et de la main ne la saisis point. À la voir de nouveau, je ne sais où elle est partie. Disparue, quelle éphémère. Mais le poème ne s'arrête pas là. Le poète lui-même, donc Kaoru, crée une sorte de résonance, de yoin, de hibiki, en murmurant pour lui-même, vous voyez, « Shitori gochi tamo tokaya », on raconte qu'il murmura ensuite, selon sa coutume, « Re no shitori gochi, aruka nakika no to ». Le Haruka Nakika. Il murmura pour lui-même, est-elle ou n'est-elle pas ? Cet écho, outre qu'il annonce, toujours selon l'art consommé de notre romancière, l'ambiguïté qui suivra concernant la mort annoncée, mais la survie de Ukifune, et cet écho sert en réalité à remettre le poème, pour ceux qui ne l'auraient pas compris d'emblée, dans sa relation littéraire convenable. Comme précédemment, ce lien est en réalité double. Il y a d'abord le plus évident, celui qui est noté par les commentateurs, à savoir deux poèmes qui sont inclus dans la deuxième des anthologies impériales, le Gosen Wakashu de 951, à mi-chemin donc du Xe siècle. Les deux d'auteurs inconnus et dénoncés fort voisins. Le plus souvent mentionné d'ailleurs au point que les traducteurs modernes en donnent la version complète, ce qui n'est pas un bon procédé, parce qu'en réalité, en citant cette partie de vers, seulement et pas le poème entier, Murasaki Shikibu fait allusion à plusieurs poèmes. Lorsque les traducteurs modernes donnent ce poème complet, en réalité, ils réduisent le champ des possibilités, et donc celui dont je vais vous parler tout de suite après. Donc, le plus souvent mentionné, donc d'auteur inconnu, est le suivant. Aware tomo ushitomo iwaji. Ni misérable, ni sinistre, nous ne dirons l'éphémère, en ce monde qui se dissout dans l'être ou le non-être. N'est-ce pas ? Kagero no aruka nakika ni kenuru ou bien kiyuru yo nareba. L'existence est si insaisissable que les termes dépréciatifs que nous pouvons lui appliquer n'ont plus de sens. Ce n'est même pas la peine de parler de Aware Tomo ni de Ushi. Il n'y a rien. On ne sait même pas si l'objet de notre adjectif existe ou non. Le même recueil au livre 18 a aussi un poème analogue. Je vous l'ai mis, oui. Yononaka to itsuru mono wa. Aura-t-on dit quel est de ce monde l'éphémère, dont l'état relève à peine, alors je relève à peine, de l'être ou du non-être. Kagero no aruka nakika no hodo nizo arikeru. Il est juste à la limite de ce où on peut se demander s'il est ou il n'est pas. Ce n'est que par commodité de traduction que nous choisissons ici cette locution à l'allure un peu philosophique. Le japonais est beaucoup plus lyrique, plus direct, comme l'était sans doute d'ailleurs le « to be or not to be » shakespearien auquel on ne peut s'empêcher de penser. Mais il est bien évident que sous cette proximité remarquable de la langue la plus quotidienne se dissimule à peine une profonde perception du monde fondée sur le bouddhisme. Le monde étant entièrement privé de nature propre, jishoku, n'est-ce pas, il est vide de mizukara no tachi, seikaku, il est privé de nature propre. L'être ne peut lui être conféré que sous le mode conditionnel, gon, n'est-ce pas, et pas jitsu. Il ne saurait être question de lui accorder au sens absolu, le sens absolu qui est réel, primordial, c'est-à-dire le jitsu ou le daichigi. Vous vous souvenez de l'adjectif makoto que l'on a vu plusieurs fois à propos du Genji. C'est pour cela que cette locution s'applique admirablement dans un contexte bouddhique. Et pour parodier les Dupont et Dupont, n'est-ce pas, je dirais même plus, au risque encore une fois d'étonner, c'est très probablement au bouddhisme, contrairement à l'idée habituelle que nous avons de cette relation, c'est très probablement au bouddhisme que nous devons en japonais cette acception de l'insecte dit éphémère comme métaphore de l'existence, de notre existence à peine existante. Il faut savoir en effet... Et vous voyez, je reviendrai peut-être dessus, mais vous voyez cette espèce de d'illusion de la perception, d'illusion d'optique que nous avons lorsque nous voyons un terme poétique que nous trouvons banal, normal, traditionnel, c'est pas aruka nakika, dit ah tiens, c'est ici employé dans un sens bouddhique, comme si c'était d'abord une locution quotidienne, et puis après, le trouvant dans un contexte beaucoup plus bouddhique, on se dit, voilà, c'est ramené vers le sens bouddhique. Or, non, comme vous le savez, le bouddhisme est présent dès le début de la culture japonaise, c'est l'inverse en réalité, c'est que ce sont des phrases du bouddhisme qui sont devenues banales et qui après sont recyclées en quelque sorte dans leur vrai contexte. Il faut savoir donc en effet que le mot japonais kagero a au moins deux sens, fort voisins, en ce qu'il dénote des entités à la limite du réel par leur fragilité ou leur subtilité. Je vous donne ici les kanji, n'est-ce pas, les caractères chinois qui correspondent. Vous avez l'insecte d'une part, mais ce qu'on appelle aussi les mirages de chaleur, c'est-à-dire les distorsions visuelles provoquées par les différences de température de couches d'air qui se rencontrent. C'est le plus loin où je puisse aller dans une explication technique. Donc, vous voyez, tout le monde a cette vision sur les terrains d'aviation, n'est-ce pas, l'air qui shimmer en anglais, n'est-ce pas, l'air qui vibre, qui derrière les réacteurs, et vous avez cette espèce de flou de la perception, c'est kagero, n'est-ce pas. Les deux sens sont distingués par leur graphie chinoise. Vous avez d'un côté seiryo ou fuyu, et de l'autre, ce yo-en, qu'on écrit aussi de deux façons, yo-en, n'est-ce pas, retenez bien la deuxième graphie, puisque vous verrez qu'elle est en dessous aussi dans le sutra du lotus. Donc, les deux sens sont distingués par leur graphie chinoise, mais comme on le sait, ces graphies ne reposent que sur le bon vouloir des copistes et sont changeables à l'infini. Or, si le sens entomologique ne semble pas être présent dans les textes bouddhiques canoniques. Je n'ai pas trouvé, vous savez maintenant c'est très facile de scruter tout le canon bouddhique grâce aux ressources que nous avons comme Sibetta, etc. Je ne trouve nulle part d'allusion à kagero au sens de l'insecte. La comparaison en revanche avec le mirage est elle bien connue. Et en premier lieu, dans le Sutra du Lotus, où nous trouvons cette phrase, je vous la donne ici, n'est-ce pas, c'est dans le Zuiki Kudokuhon, les mérites de la joie conséquente. Le monde n'a rien de ferme ni de stable, ce n'est qu'écume sur l'eau, n'est-ce pas. Donc vous avez ici les mapoen, n'est-ce pas. Ce n'est qu'écume sur l'eau, bulle, mirage. En ici n'est pas dans le sens de hono, mais dans le sens de mirage. Vous vous devez tous d'en concevoir au plus tôt de l'écœurement. Ce passage fait partie de ces séries de comparaisons. On en trouve aussi de plus célèbres encore dans le Kongokyo, n'est-ce pas, le Sutra du Diamant, qui ont fait le miel des poètes japonais. Et l'on ne sera pas surpris d'apprendre que notre Vestal poète, Senshi Naishinno, a choisi précisément cette citation pour sa série de poèmes lotusiens. Voyons-le ici. Kagero no aruka nakika no yono naka ni ware aru mono to tare tanomiken. Vous voyez toujours cette espèce d'interrogation permanente de Senshi Naishinno, n'est-ce pas ? En ce monde, qui comme d'un mirage peut être ou ne pas être, qui donc pourrait se fier, alors, Wade Arumonoto, que j'existe, serait-on tenté de dire, mais non, ce serait horriblement peu poétique de s'exprimer comme ça dans un poème. Ce n'est pas ici le je de la poétesse, c'est le moi. Donc, qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi ? Et ce Wade transcrit le terme technique bouddhique ziga, n'est-ce pas ? C'était... Nous voyons ici que ce poème, bien évidemment bouddhique, s'enfonce plus profondément dans la doctrine et que l'acception de mirage est bien plus adéquate pour le propos à celle d'une éphémère. Car après tout, un bouddhiste conséquent avec lui-même ne mettra pas en doute qu'un insecte, tout comme une petite fille dragon d'ailleurs, puisse avoir un moi, aussi intime, infime soit-il, car en tuer constitue une atteinte à la vie, c'est chaud. Tuer une éphémère, vous ne pouvez pas dire, elle existe ou pas. Non, vous tuez un insecte et vous tuez un être vivant. Si bien que les éphémères participent malgré tout un tant soit peu de notre condition phénoménale, alors que le mirage est une parfaite illustration de cette inconsistance ontologique. En tout cas, il n'y a pas ici d'ambiguïté, puisque Senshi met son kagero sous le caractère chinois en, qui n'est pas ici à prendre au sens de flamme, comme je vous l'ai dit, hono, mais bien au sens de mirage. Nous voyons donc, encore une fois, une trace de l'influence que Senshi Naishinno a exercée sur Murasaki Shikibu, dans cette nouvelle relation triangulaire. Aucun commentateur ne mentionne le poème de la Vestale, pas plus d'ailleurs que pour celui sur le Kurakiyori. Mais nous avons vu l'importance que la romancière, dans son Nikki, lui accordait. Il est impossible de penser que ces poèmes soient sans relation avec ceux de son modèle entre guillemets, lorsque l'énoncé en est si proche. Comme je l'ai laissé entendre plus haut, et au risque de passer pour un forcené de l'exégèse bouddhique, je ne pense pas du tout qu'il s'agisse d'une évolution linéaire, d'une comparaison banale tirée de l'expérience quotidienne, vers une illustration de la doctrine bouddhique. Bien au contraire, c'est l'ambiguïté du kagero qui a permis dès le début de coupler l'image de l'insecte et du mirage en filigrane avec ce dilemme sur l'existence. Car il faut savoir, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que là ça nous amènerait très très loin, il faut savoir que cette question est traitée depuis longtemps dans le bouddhisme et nous la trouvons déjà débattue chez Nagarjuna, Ryuju, n'est-ce pas, le grand philosophe indien du... Alors, ne me demandez pas de le dater, je vais dire 350-400 pour l'instant et sans en être sûr. Évidemment, Nagarjuna vient après le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus, dans sa version sanscrite, est datable de... Là aussi, enfin, de quelque chose comme 150-200. Donc, Nagarjuna viendrait deux siècles après lui. Mais sa discussion sur le statut du mirage, le statut ontologique du mirage, s'inscrit pleinement là-dessus. Donc, il s'agit donc d'une idée qui s'est en quelque sorte débouddhisée dans la littérature générale et singulièrement dans la poésie, avant d'y retrouver son contexte originel grâce à la vogue des shakyoka, des poèmes à thème bouddhique. Nous voyons ainsi que ces thèmes poétiques sont en réalité en équilibre permanent entre un sens bouddhique parfaitement cohérent et un emploi plus général, mais qu'ils sont susceptibles de se retrouver à tout moment parfaitement réintégrés dans leur sens d'origine. Ces différents exemples constituent une préface utile au survol que nous allons faire du chapitre 10 du Genji, intitulé « Sakaki » ou l'arbre sacré. J'aime bien cette traduction. Le traduire Sakaki, vous allez le voir, à moins de le faire en latin, ce qui n'est pas indiqué ici, est assez difficile. Donc nous avons pris ce chapitre comme exemple pour deux raisons. Tout d'abord parce que notre enquête, nous l'avons dit, privilégie les poèmes, comme dans le Genji, les poèmes qui sont au nombre de 800, je vous le répète, comme repère important dans la dynamique de la narration et comme signe d'implantation du bouddhisme au sein de cette histoire à première vue profane. Et que ce chapitre est le deuxième du livre pour le nombre de poèmes. Celui qui a le plus grand nombre de poèmes est le chapitre 12, le chapitre Suma, avec 48, tandis que celui-ci en comporte 33. Et d'ailleurs, il constitue le prélude au chapitre 12. Il y a un chapitre intermédiaire qui n'a pas grand rapport avec la narration, mais ce qui va suivre le chapitre 10, c'est le chapitre 12, l'exil à Suma. Nous avons ensuite des chapitres de 31, 30, 28 poèmes, et même des chapitres à un seul poème. La seconde raison est sans doute déjà évidente pour beaucoup de ceux qui auront assisté au cours d'il y a quelques années traitant des poèmes sur les dieux. Les dieux japonais s'entend, les kami. On se rappellera que les poèmes sur les dieux, les Jingika, les Jingi no Uta, excusez-moi, c'est un peu... dont nous avons lu la lente évolution en direction du bouddhisme, se présentaient sous la forme la plus dépouillée, voire dénudée, dans ce que l'on a appelé les Kagura Uta, ou les chants divins. Ces chants très simples qui accompagnaient les danses sacrées destinées aux divinités. Sacrées est entre guillemets, mais enfin oui, ce sont des danses quand même que l'on effectuait dans les sanctuaires en l'honneur des dieux. Ils étaient volontairement simples, et je voudrais simplement que l'on se rappelle ce sur quoi j'avais attiré l'attention à l'époque, à savoir que ces chants étaient consciemment gardés de leur dénuement stylistique et soigneusement préservés de toute allusion au bouddhisme. Vous savez qu'il est très difficile de trouver dans les anthologies impériales des poèmes où vous n'avez, des poèmes concernant le surnaturel où vous n'avez pas une relation avec le bouddhisme, même quand ce sont des poèmes d'inspiration Shinto, n'est-ce pas, à première vue Shinto. Or, ces Kagura Uta sont en général, et Dieu sait que j'aimerais bien en trouver, mais non, vous n'avez pas on le fait exprès, on les garde à l'écart du bouddhisme. Et même lorsqu'ils sont l'œuvre de prélats bouddhiques importants, je ne sais pas si, enfin c'était il y a 7 ou 8 ans de cela, je vous avais donné des Kagura Uta ou faits par des prélats bouddhiques tardif, donc de la fin de Heian, et il se plie aux mêmes contraintes. Le non-bouddhisme était en quelque sorte une figure obligée de ces œuvrettes, une contrainte poétique à laquelle se sont volontiers pliés tous ceux qui se sont fait la main à ce sous-genre. Or, et si l'on s'en souvient sans doute, l'un des principaux ornements poétiques de ces piécettes est la branche de Sakaki, un arbre à feuilles persistantes que ce caractère seul fait considérer comme divin, symbole de la pérennité, le contraire en somme du bouddhisme, dont la doctrine la plus ordinairement répétée est l'impermanence des choses, le mujo. Par la longévité, et en particulier la longévité du règne d'un empereur qu'il assure en ce monde, le sakaki est le remède à l'impermanence. Nous avons vu suffisamment de poèmes où le terme apparaît dans ce cours d'ailleurs, pour nous abstenir d'en citer ici. Nous rappellerons seulement celui-ci, qui est donc Sakakibani Yushidekakete. Alors le Yu, ce sont ces espèces de petites banderoles, n'est-ce pas, qui sont accrochées à des cordelettes. Donc, voici des branches de sakaki agitées par un des servants un kannushi, n'est-ce pas, ou bien un kanzukasa, comme on dirait dans le Genji. Et puis ici quelques-unes de ces cordes et cordelettes qui font partie des yushide et Yudasuki que nous allons voir tout à l'heure. Donc je reviens vers ce. Aux feuilles de Sakaki, les guirlandes sacrées, en quel règne, devant les dieux, Kami no Mimaeni, Iwaisomekem, en quel règne, devant les dieux, commença-t-on ainsi à le célébrer ? Tiré des Kagurauta, donc du Shuishu, la troisième des anthologies poétiques impériales, qui est composée au tout début du XIe siècle, et probablement entre 1005 et 1010, donc exactement contemporaine de Murasaki Shikibu, encore une fois. Vous vous souvenez qu'en 1008, on sait qu'il avait écrit une bonne partie du Genji. Donc voici ce que voici un poème concernant les Sakaki. C'est vraiment l'emblème de la cérémonie bouddhique et aussi pour la prospérité du pays et du règne. Il est donc hautement intéressant pour notre propos d'examiner le contenu de ce chapitre que le titre même place dans la voie des dieux, le Shinto, au sein d'un roman dont nous voyons à chaque fois un peu plus profondément comment la texture en est essentiellement bouddhique. Nous ne serons pas déçus, oserais-je prédire, de cette incursion. Je passe très rapidement sur le fait que la graphie de Sakaki, que vous voyez ici, n'est-ce pas, en premier, c'est-à-dire la clé de l'arbre et les dieux, Kami, vous voyez que par sa structure graphique même, on comprend tout de suite que ce n'est pas un caractère chinois, mais un caractère japonais, un kokuji, c'est-à-dire qui a été fait par les Japonais eux-mêmes, pour exprimer quelque chose dont ils sentaient l'absence dans les caractères chinois. Et vous voyez que c'est un kokuji parce que c'est un peu aberrant. Vous avez d'abord la clé de l'arbre et ensuite la clé de la divinité. Normalement, il aurait fallu choisir l'un ou l'autre. Mais évidemment, c'est vraiment kami no ki, l'arbre des dieux qui est ainsi exprimé dans la graphie. Et or, dans le titre du Genji, c'est rarement, ça existe. Vous avez des manuscrits qui l'écrivent avec ce caractère-là, mais la plupart du temps, c'est avec le caractère kashikoshi, n'est-ce pas, et ki, c'est-à-dire l'arbre vertueux, l'arbre d'intelligence, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, il y a un léger décalage, sans doute conscient, au moins de la part des éditeurs. Nous ne savons pas ce n'est probablement pas Murasaki Shikibu qui a donné les noms des titres des chapitres, entre parenthèses. Donc, nous ne pouvons pas faire grand-chose à partir de cela. C'est un chapitre particulièrement riche, dont la toute dernière partie, dans une scène digne des noces de Figaro, donne la raison de la colère de l'impératrice douairière qui vaudra au prince l'exil à Suma. Il y a d'ailleurs deux scènes qui rappellent Cherubino. Je vous renvoie encore une fois ce petit guide très pratique de Diane de Sellier, n'est-ce pas, le guide de lecture du Genji Monogatari, où vous trouvez les chapitres résumés point par point. Donc, ne revenons pas là-dessus. Nous attarderons en revanche sur ce qui doit attirer tout spécialement notre attention. La façon dont ce chapitre 10 enlace savamment, mû par la logique narrative même et apparemment sans plan préconçu de la romancière, qui selon son habitude semble n'être que la spectatrice neutre de l'action, enfin neutre, c'est une fan, une groupie du Genji, n'est-ce pas, et il y a beaucoup d'interventions d'elle dans ce chapitre aussi, où elle s'excuse presque de rapporter avec tant de termes élogieux la conduite de son héros. Et ses seules interventions, c'est son propre étonnement devant l'admiration qui ne peut s'empêcher pour le protagonisme de son roman. Nous voyons donc le même personnage, Genji bien sûr, passer par les deux dimensions qui constituent le paysage religieux japonais de l'époque, avec à chaque fois l'expression d'un état d'esprit bien différent. Tenter de résumer trop en détail ce chapitre nous emmènerait trop loin dans la description des méandres romanesques des errements du prince. Contentons-nous de donner le cadre le plus large des deux épisodes que nous retenons ici au début de la semaine prochaine, parce que je n'aurai pas le temps de tout traiter, bien sûr, c'est tellement riche que... Donc, dans le premier, Genji va tenter dans la première partie, le premier épisode, il y en a plus que deux d'ailleurs, mais je m'arrête sur deux épisodes. Dans le premier, Genji va tenter de rejoindre l'une de ses anciennes amantes, la dame de la chambre de la 6e avenue, Rokujo no Miyasu Dokoro. Je reprends la terminologie de Cipher, et on sait qu'elle joue un rôle sinistre dans le roman, peut-être à son corps défendant, par les puissances démoniaques que déchaîne sa jalousie morbide. Et je reviendrai là-dessus, mais ce chapitre 10 suit le chapitre 9 qui est absolument terrible, puisque c'est la mort de la première épouse de Genji, Aoi, qui meurt dans des saisi par un mal mystérieux et de convulsion qu'on attribue justement à l'esprit vengeur de cette dame que maintenant il va aller rechercher au fond des bois, pour ainsi dire. C'est encore une fois pour montrer le caractère tout à fait que nous pourrions qualifier d'incohérent de la conduite du Genji. Donc, cette dame de la 6e avenue, pour s'éloigner de Genji et d'un amour qu'elle juge humiliant, parce qu'elle avait été en effet l'épouse du précédent empereur, le frère du père du Genji, et elle s'était trouvée déclassée par le nouveau règne. Je n'entre pas dans les détails parce que ça fait Proust semble simple à côté. Mais je vais vous dire, reportez-vous au livre. Donc la dame de la 6e avenue veut accompagner sa fille, qui est Akikonomu Chugu, de grande beauté, qui deviendra plus tard la fille adoptive du Genji. Elle veut l'accompagner ou au sanctuaire d'Issé, où l'empereur l'a désignée comme grande prêtresse. D'ailleurs, elle en reviendra au chapitre 14. C'est un peu l'équivalent à Issé de ce qu'est Senshi Naishino au Kamo-jinja. Genji veut à tout prix la revoir, la dame de la 6e avenue, et la rejoint aussi incognito que lui permette son état illustre à Sagano, donc à Sagano qui est maintenant dans la périphérie de Kyoto, mais qui était alors considéré comme l'antichambre du désert, n'est-ce pas ? Alors que la mère et la fille font une étape dans un sanctuaire Shinto provisoirement bâti à la hâte pour l'occasion. La vue de ces constructions sommaires, avec les officiants Shinto, les Kanzukasa, je ne vous donne pas ici, avec les officiants, essayant de prévenir discrètement la maîtresse des lieux de l'arrivée d'un illustre visiteur. Il y a en effet une scène un peu bizarre où l'on voit tous ces Kanzukasa qui sont dans la cour en train de tout sauter et de parler entre eux, de parler par murmure. Et une bonne partie des commentateurs et des traducteurs estiment que cette attitude bizarre, c'est simplement parce qu'ils essayent d'alerter la dame de la 6e avenue de la visite de l'arrivée du Genji sans lui dire attention, Genji arrive. Donc ils tout sautent et tout pour lui dire de se préparer en quelque sorte. Et il est intéressant de voir donc que l'arrivée dans ce Jinja, n'est-ce pas, c'est un sanctuaire Shinto de fortune, il passe un torii, c'est-à-dire un portique Shinto qui a été édifié là. On est vraiment dans un, comme vous allez voir, on est vraiment dans un monde particulier, n'est-ce pas, le Tamagaki à l'intérieur de l'enceinte précieuse. Et ça provoque chez le Genji un sentiment, ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'inquiétante étrangeté, n'est-ce pas, de Unheimlichkeit. Hokani sama kawarite miyu. Il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas chez lui. À la différence des temples bouddhiques, où il paraît se sentir bien plus chez lui, justement. Il n'y a pas, on ne note pas, lorsqu'il se trouve dans un milieu bouddhique, ce sama kawarite miyu, ça avait l'air bizarre. Genji, qui semble toujours n'agir que sur impulsion, selon le principe énoncé par Corneille, et le désir s'accroît quand les faits se reculent, semble brusquement refuser l'idée même de la voir partir, comprenant bien qu'elle ne le fait que pour échapper à l'emprise d'une passion qu'elle refuse. Le second épisode qui nous arrêtera sera celui qui décrit les conséquences de la mort de l'empereur retiré Kiritsubo, décrit dans ce chapitre, qui avait abdiqué en faveur de son fils aîné, Suzaku no In, et qui était le fils de Suzaku no In, avec qui Genji a de bonnes relations plutôt. Enfin, c'est un personnage plutôt sympathique. Mais qui était le fils de la redoutable impératrice douairière Kokiden, la rivale légitime et humiliée de Kiritsubo no Koi, c'est-à-dire de la mère du Genji. L'empereur retiré dans un émouvant imbroglio confie, parce que c'est comme dans la chanson une chanson des années 60, n'est-ce pas, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. Donc l'empereur Kiritsubo croit être le père de celui qui sera l'empereur Reizei, mais c'est le Genji en réalité, c'est toute l'horreur de la faute, n'est-ce pas, Genji qui a couché avec, pas sa mère, mais sa belle-mère, avec l'impératrice Fujitsubo, que vous allez retrouver tout à l'heure. Donc, Alors, dans un émouvant imbroglio, confie à Genji la garde de celui qu'il croit être son fils à lui, celui qui deviendra, après le décès précoce de Suzaku, l'empereur lésé, pas pour très longtemps non plus d'ailleurs, et qui a en réalité pour père Genji lui-même, qui a fauté avec l'épouse favorite de Kiritsubo, Fujitsubo, avec laquelle Genji s'était quelque peu consolé de la mort de sa précédente favorite. Mais n'entrons pas dans les détails. C'est beaucoup plus compliqué que Dallas sous les feux de l'amour. Disons simplement qu'ici, Fujitsubo, tout en étant déchiré à l'idée de laisser son enfant, leur enfant, sans protection à la merci de la Kokiden et de sa clique, décide de façon irrévocable d'entrer en religion et de devenir nonne. Ici encore, pour la plus grande confusion du Genji. Nous apercevons donc ici une certaine symétrie dans les deux épisodes, telle du moins que je les résume, sans trop les déformer. Deux anciennes, si je puis parler ainsi, deux anciennes du Genji qui lui confient leur enfant, Aki Konomu d'un côté et Reisei de l'autre, et qui décident, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire leur amour inguérissable pour Genji, de s'écarter du monde, l'une se rendant vers le sanctuaire d'Issei, au lieu du culte des divinités Shinto, d'où le bouddhisme est en principe banni, mais je n'entre pas encore une fois dans les détails, et l'autre dans un monastère bouddhique. Les conséquences n'en sont pas les mêmes, la fonction des vestales des sanctuaires étant de veiller à la pureté rituelle du culte rendu. Il n'y a pas d'enjeu dans l'autre vie qui est pris en considération. Le devoir des officiants est d'assurer la longévité et la prospérité du règne. Donc les buts sont tout à fait différents, mais le mouvement est le même. La scène en quelque sorte initiale qui donne son titre au chapitre est celle où le prince finit par avoir accès, alors il y a vraiment du marivaudage que je vous passe, finit par avoir accès à la dame de la 6e avenue et avoir la permission de s'asseoir sur la galerie Sunoko, c'est-à-dire le Nure-en, longeant son appartement. Elle est toujours derrière un store, bien sûr, ça ne durera pas longtemps même. Et il lui tend un rameau de sakaki, justement, qu'il a rompu en chemin. Et la scénette est délicieuse. Je vous le lis, n'est-ce pas ? Ma traduction. Ses gestes et son attitude, son parfum était d'une incomparable splendeur dans la brillance du clair de lune. Comme il était par trop embarrassant, Mabayuki, n'est-ce pas, de tenter de lui justifier Tsukizukishu, de tenter de lui justifier ces mois de silence qui s'étaient accumulés, Tsumori, il s'était contenté de rompre en chemin une ramille de sakaki qu'il glissa dans le store qui les séparait encore, en lui disant, me laissant, vous voyez, Kawaranu iro shirube nite koso, encore une fois ce shirube que l'on retrouve de loin en loin, n'est-ce pas? Mais ici, c'est encore une fois, c'est un guide vers la perdition. Me laissant guider par cette couleur qui ne change jamais, celle du sakaki, j'ai franchi la haie précieuse, saigaki, on peut lire ici tamagaki, n'est-ce pas ? Mais comme vous avez l'esprit chagrin, samo kokoro uku, vous voyez, il arrive toujours, nous verrons ça tout à l'heure, il arrive toujours à rejeter la faute sur la dame qu'il dérange. Alors, comme l'on peut s'y attendre, cette réplique du prince est fondée sur une citation poétique, sur laquelle nous ne nous attarderons pas. Mais contentons-nous, après avoir dûment noté que le symbole du sakaki est bien celui de la pérennité, vous voyez, kawaranu iro o shirube, une couleur qui ne change pas. Bien évidemment, tout le monde a compris l'ambiguïté du mot couleur, iro en japonais, le japonais bouddhisé et sinisé, n'est-ce pas ? Iro accumule 3-4 couches de sens, n'est-ce pas ? C'est la couleur, la simple couleur, la couleur du sakaki, qui est un feuillage qui ne se fane pas. Et puis, vous avez bien sûr, iro veut dire le sentiment amoureux, c'est-à-dire c'est le visible, c'est tout ce qui entraîne l'attachement du monde phénoménal. Et c'est donc le visible, l'objet de l'attachement, et c'est l'attachement lui-même. Iro veut dire le désir amoureux. Donc ici, ce kawaranu iro shirube nikoso, c'est guidé par la couleur pérenne du sakaki, mais guidé par mes propres impulsions, n'est-ce pas ? Il le dit sans embâge. Et ce qui est amusant, c'est que ce symbole de la pérennité, et vous voyez encore une fois comment les mots s'annulent en japonais, n'est-ce pas, c'est la pérennité, kawaranu iro, mais il n'y a pas plus mujo, il n'y a pas plus impermanent justement que le désir amoureux. Donc c'est ce symbole il s'applique à son amour ce symbole de la pérennité, alors que toute sa conduite prouve, et la Rokujo no Miyasu no Koro, la dame de la sixième avenue, le sait mieux que quiconque, qu'il a un cœur d'artichaut. Et voyons immédiatement l'échange de deux poèmes qui se fait entre eux, en reprenant ce vocabulaire commun marqué par le culte Shinto. Et c'est la dame qui ouvre le feu, en quelque sorte, puisque elle est piquée par le reproche, enfin, indirect pour nous, mais très très direct pour le Japon de l'époque, « Samo koko no uku, voilà que vous me faites la tête, n'est-ce pas ? Enfin, c'est, je vous vois tout chagrin, toute chagrine. » Et elle dit, voilà, « Kamigaki », qui est le synonyme de « Tamagaki », en cette divine enceinte, point de cryptomère, Shirushi no Sugimo, Nakimono, en cette divine enceinte, point de cryptomère, un arbre très droit, n'est-ce pas, qui peut servir de poteau indicateur dans ce. Donc, point de cryptomère pour vous faire signe. Par quelle confusion, n'est-ce pas, Ikani Magaete, par quelle confusion brisâtes-vous ce rameau sacré ? N'épiloguons pas. La dame renvoie à un célèbre poème du Kokinshu où le cryptomère servait de repère à l'amant. C'est donc une fin de non-recevoir. Shirushi no Sugi, il n'y avait pas de cryptomère à ma porte, qu'est-ce que vous venez faire ? Mais le prince ne se le tient bien sûr pas pour dit, c'est pas son genre, vous le savez. Et il maintient la teneur religieuse de l'échange. Otomeko ga atari tomoeba, sakakiba no kao natsukashimi. Songeant que c'était le parage des vierges consacrées, ça peut être un pluriel ou un singulier, hein, de la vierge consacrée, ça se rapporterait directement à la dame de la 6e avenue, des vierges consacrées, bien, c'était un sanctuaire, donc il est arrivé comme cela en pensant qu'il y aurait bien quelques personnes du sexe pour l'accueillir. Songeant que c'était le parage des vierges consacrées, mon regret de parfum de Sakaki me l'a fait cueillir. Les deux poèmes font à eux deux allusion à presque une demi-douzaine d'autres poèmes sur lesquels nous n'avons pas à revenir. La dame de la 6e avenue tient bon malgré tout, et elle ne renonce pas à son projet. Malgré l'amertume de l'échec, cet échange amoureux marqué par le rameau d'arbre sacré n'entretient pas l'atmosphère d'angoisse, d'inquiétude existentielle que le lecteur ne tardera pas à rencontrer dans la suite du chapitre, avec la mort de l'empereur retiré et l'échange bien plus tendu avec Fujitsubo. Disons seulement que dans cette première partie, et même dans la seconde, le vocabulaire du rituel Shinto avec les cordons sacrés, les yu, yu, dasuki, etc., est souvent invoqué. Serait-ce trop simplifier les choses que d'estimer que la présence des dieux japonais ne provoque nulle crise d'angoisse, nul remords chez le protagoniste. Si certains peuvent le penser, je me permettrai certains peuvent estimer que ce serait trop simplifier les choses que de dire ça, n'est-ce pas ? Je me permettrai de sauter un chapitre et d'aller à la fin du chapitre 12, le chapitre Suma, celui où il y a le plus de poèmes, il y a 43 poèmes, n'est-ce pas ? Et je vous passe encore une fois ce chapitre très riche, qui finit presque par une description de tsunami d'ailleurs. Et c'est tout à fait. Voici ce poème qui va vous montrer quel est l'état d'esprit du prince dans un contexte Shinto. Parce qu'on se souvient que plus d'une fois, et nous allons encore bientôt le voir, lorsque le prince se trouve au milieu des solennités bouddhiques ou en présence d'un pieux prélat, il ne manque pas de se laisser aller à d'éprouvants examens de conscience et reste horrifié de ses péchés, les tsumi. Je traduis tsumi par péché à bon escient. Je sais qu'on me le reproche, mais c'est exactement ça. C'est une faute morale qui engage le salut de la personne, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas un péché, je me demande ce que c'est. Or, en cette fin de chapitre, qui prélude à son retour à la capitale et à son essor politique, revenu d'exil, il va prospérer, le spectacle de la mer lui fait penser au passé et à l'avenir. Koshikata Yukusaki Oboshi Tsuzuki Rarete. Il continue de penser Koshikata au passé, Yukusaki, c'est comme Yukusue, c'est le futur. C'est du vocabulaire bouddhique, ça. Mais qui lui inspire un poème au dieu plutôt surprenant. Voici ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans son poème au dieu, et ce n'est pas un shakyoka ici, « Yao yorozu, kami mo awareto omouram, okaseru tsumi no soritonakereba. » enfin, c'est quand même, je vous le traduis, les 800 myriades de divinités de moi auront pitié, car de péché que j'eusse commis, Nakedeba, il n'y en a point. Je suis clean. Cette excursion à deux chapitres de distance, mais qui nous permet de rester dans l'univers des Kami, illustre parfaitement l'état d'esprit du Genji lorsqu'il choisit de rester dans la dimension terrestre, en fin de compte. Et d'ailleurs, l'un des poèmes du chapitre Sakaki parle des dieux du pays Kunitsukami, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les dieux qui sont, qui à l'époque sont, ça change selon les époques, mais plus proches, disons, de ce qui concerne les clans, la politique, ce sont les dieux qui s'occupent directement des affaires du Japon, en quelque sorte. Et de ce côté-là, pour lui, il n'y a rien à se reprocher. C'est d'ailleurs l'avis de son père, qui, sentant sa mort prochaine, insiste auprès de l'empereur Suzaku pour qu'il protège Genji pour le bien du royaume, c'est précisé. Et nous remarquerons qu'il se réfère alors au pronostic du devin de Corée, c'est du premier chapitre. C'est peut-être l'occasion de dire ici que dans cette seconde partie du chapitre, qui a pour centre malgré tout les rapports compliqués par la mort de l'empereur retiré, les allusions et références aux historiens chinois, aux épisodes de l'histoire de Chine et à des œuvres littéraires chinoises se font plus nombreuses, comme provoquées par la matière même de la narration. Et dans ce chapitre, entre autres, je continuerai la semaine prochaine, mais je n'insisterai pas là-dessus, mais dans ce chapitre, le prince, le Genji, apparaît comme un spécialiste des classiques chinois et de la poésie chinoise. Ce n'est pas seulement un bellâtre, c'est aussi quelqu'un d'érudit. Et toujours, évidemment, nous savons l'amour que Murasaki Shikibu porte aux lettres chinoises, il était normal que son héros en soit aussi un grand connaisseur. Mais revenons pour l'instant au bouddhisme. Rappelons que le Genji avait perdu son épouse Aoi l'année d'avant, au chapitre 9, le chapitre 9 qui a du même nom, n'est-ce pas, Aoi, sans doute à cause de l'esprit vengeur de la dame de la 6e avenue. C'est d'ailleurs dans le même chapitre qu'il s'empare de la protégée Murasaki pour en faire sa nouvelle épouse, avec cette scène de que l'on ne peut interpréter que comme une scène de viol. Là aussi, il avait pensé à se retirer du monde. Mais dans ce chapitre-ci, voici ce que dit Murasaki Shikibu. Kozo Kotoshito Uchitsuzuki a considéré Kakaru Koto Mitamo Oni, n'est-ce pas ? A considéré les événements de l'an passé et de cette année qui s'étaient succédé, le monde ne lui semblait plus qu'absurdité. Vous voyez encore le même mot, Ajikinaki Le monde ne lui semblait plus qu'absurdité. Mais même dans ces circonstances, alors qu'il pouvait enfin se décider, vous voyez, Mazu, Oboshi Tataruru Koto, wa Aredo, il pouvait dresser sa volonté, c'est-à-dire, il pouvait. Alors qu'il pouvait enfin se décider, sous-entendu, à quitter le monde, une foule d'entraves l'en empêchait encore. Mata samazama no onhodashi okadi. Une foule d'entraves. Le mot pour entrave, hodashi, ce qui est synonyme de kizuna, ou c'est synonyme, n'est-ce pas, sera répété plusieurs fois au cours du chapitre, soulignant toujours la tension entre la solution qui se lie toujours entre la solution et que son éducation et même son érudition bouddhique le poussent à appliquer, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est se retirer du monde. Mais il retombe toujours dans ses ornières en y faisant retomber les autres. Et le Genji finit encore une fois, exactement comme pour la dame de la 6e avenue tout à l'heure, finit par surprendre Fujitsubo, donc l'ancienne impératrice, dans ses appartements avec la complicité de ses proches, alors que celle-ci veut quitter le monde. Et au terme d'une nuit, enfin ce n'est pas dit en termes aussi explicites, mais bon, nous arrivons à l'aube, n'est-ce pas, ils échangent ses poèmes avec Genji qui fait encore des reproches à la malheureuse. Voyez, Aokoto no kataki wo kyo ni kagirazu. La difficulté de la rencontre, mais et de notre rencontre. La difficulté de notre rencontre à ce jour ne se limitera ce n'est pas la seule fois, n'est-ce pas? Kagirazuwa, Kagirazareba, n'est-ce pas? Puisque, combien d'existences encore passerai-je à me lamenter? Nagirisusuhemo, c'est toujours lui, n'est-ce pas? Et de souligner son désespoir par une phrase, je n'ai pas dit ici, après ce poème, il donne encore une fois une sorte de yoin, n'est-ce pas, de hibiki. Ça se produit très souvent dans le Genji Monogatari, qui souligne la portée du poème, et il dit, pour bien mettre les choses au clair, on hodashi ni mokoso. Ce sera une entrave pour vous aussi. Vous êtes un poids pour moi, mais pour vous aussi, avec vos histoires. N'est-ce pas. Il reproche donc, avec très peu de galanterie, à son aimé d'être un obstacle pour lui. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que ce poème parodie un shakkyoka, hein, c'est-à-dire un poème d'expression bouddhique. L'expression « aukoto no kataki » s'applique, c'est-à-dire ce qui est difficile à rencontrer, s'applique le plus souvent, en effet, à la loi bouddhique ou à l'enseignement du lotus. On trouvera des poèmes bouddhiques avec des locutions comme « aikataki yamaki no nori no hana », n'est-ce pas ? La fleur de la loi en 8 volumes, en 8 livres, si difficile à rencontrer. C'est le sutra du lotus. Ou bien « aikataki nori no nakanimo », dans la loi, si difficile à rencontrer. Donc « aukoto no kataki », c'est la loi bouddhique. Et ici, le prince, que nous verrons dans peu de pages, se comporter en parangon du pratiquant bouddhique, compare la difficulté de rencontrer la loi avec le mal qu'il se donnait pour passer une nuit avec quelqu'un qu'approcher même avait constitué pour lui un terrible péché. On ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour un tel humour, n'était qu'il révèle un égocentrisme aussi désarmant que nécessaire à la narration. Mais la grande dame ne se laisse pas imposer la culpabilité du prince et lui rétorque par un poème qui est aussi une leçon de doctrine, certes assez évidente. Nagakiyo no urami o shito ni nokoshitemo, katsuwa kokoro wo adato shiranamo. Même si vous reportez nokoshite, si vous reportez, vous laissez, vous, si vous reportez sur autrui shito ni, c'est-à-dire moi, le ressentiment de si longues existences, Nagakiyo qui va se poursuivre, il faut d'abord comprendre katsuwa shiranamo. Il faut d'abord comprendre combien frivole est votre esprit. Kokoro wo adato shiranamo. Il faut comprendre la frivolité de votre esprit, de votre cœur, pourrait-on dire, de façon plus poétique et simple. Derrière le reproche direct de frivolité, le contraste entre shito et kokoro, c'est-à-dire autrui et l'esprit, ce dernier étant l'esprit propre de celui qui se tient devant autrui, ramène bien sûr à l'idée du yuishin, du rien que penser, de l'idéalisme bouddhique, qui est un trait fondamental du bouddhisme japonais. Évidemment, il n'est pas certain que c'est ce que Fujitsubo avait en tête ici. Une chose demeure cependant, c'est le caractère de poésie bouddhique qui imprègne cet échange, caractère plus accentué dans le premier poème, qui déteint en conséquence sur le second, qui est moins bouddhique d'apparence, d'aspect, mais sans doute de plus saine doctrine. Un peu plus tard, Genji se rend à la nouvelle résidence fort sobre de Fujitsubo, dont celle avec qui il vient de passer la nuit, en proie à une indicible tristesse, comme toujours lorsqu'il n'y a pas celle qu'il recherche, et cherchant comme de juste à revoir celle qui voudrait le quitter pour la vie religieuse. Il laisse échapper ce poème, que nous traduirons ici, parce qu'il nous rappellera des thèmes que nous avons vus il y a quelques années. Et là encore, il y a une très riche densité d'allusions et de jeux de mots. Nagame karu ama no sumika to miru kara ni mazu shi otaru do matsuga urashima. À présent que j'aperçois la demeure de la nonne, mais le jeu de mots, vous voyez, enfin, bien évidemment, les kanji ne servent à rien. Les kanji peuvent être toujours. Donc, ici, c'est écrit avec la plongeuse, celle qui plonge pour cueillir les algues, mais ama peut être. Ça s'écrit aussi avec la religieuse, n'est-ce pas ? Donc, à présent que j'aperçois la demeure de la plongeuse cueilleuse d'algues, n'est-ce pas ? Cueilleuse d'algues, naga me karu. Qui cueille les algues longues, n'est-ce pas ? Ou bien Nagame Karu, la ama, la religieuse qui contemple, qui est en méditation, qui est en contemplation. À présent que j'aperçois la demeure de la plongeuse cueilleuse d'algues ou la demeure de la nonne perdue en méditation, je laisse couler mes larmes sur l'île de la plage au pain. On n'oubliera pas non plus que le verbe nagamu signifie en plus composer un poème, en plus de contempler. Nous laisserons de côté le poème de réponse de la princesse, car ne nous apporte qu'une rechute dans la galanterie. Mais vous voyez combien, comment il fait ici l'amalgame entre. Et il faut savoir que près de Issé, il y avait aussi des sites avec des plongeuses. Ça fait l'objet de poèmes dans d'autres situations. Donc il fait en quelque sorte une synthèse des deux religions. Donc nous avons donc commencé à voir combien cette partie bouddhique d'un chapitre placé sous l'emblème de l'arbre consacré aux dieux japonais, est différente de la première partie. Nous sommes dans les âmes tourmentées. Je n'ai pas le temps de vous expliquer deux poèmes de teneur shinto qui comportent tous deux le même terme, yu kizuna, la cordelette de fil d'écorce, ou yu dasuki aussi. Le mot kizuna, comme vous le savez, étant synonyme de hodashi. Cette synonymie apporte ainsi un maillon entre les deux dimensions. Si le sens n'est en rien négatif dans un contexte shinto, il apparaît sous un jour tout différent en contexte bouddhique. Il est très intéressant de voir que le terme n'apparaît dans ce chapitre qu'en troisième degré, qu'après donc ce terme de lien, n'est-ce pas, de cordon, qu'après donc le passage par la dimension shinto, puis bouddhique, renouant en quelque sorte avec la dialectique du honji suijaku, n'est-ce pas, de l'assimilation des deux niveaux religieux. Il nous faut donc remettre au prochain cours les paragraphes décrivant le genji au monastère, qui exige des commentaires plus développés. Ce sera en même temps l'introduction à deux chapitres indispensables pour notre enquête, et je vous remercie de votre attention et de laisser ainsi les choses suspendues jusqu'à la semaine prochaine. Merci.